Chapitre 24. Convertis. Le peu de vie qu'ils avaient pu observer jusque-là sur Trentor se réduisit à néant lorsqu'ils pénétrèrent parmi les bâtiments largement espacés qui s'élevaient sur le campus de l'université. Là, planait un silence solennel. Les étrangers de la Fondation ignoraient tout du pillage sanglant qui, des jours et des nuits durant, avait accablé Trentor, épargnant finalement l'université. Ils ne savaient rien des temps troublés qui avaient suivi l'effondrement du pouvoir impérial, lorsque les étudiants, avec des armes de fortune et leur courage pour seule expérience, avaient formé une armée de volontaires afin de protéger le sanctuaire de la science de toute une galaxie. Ils ne savaient rien de la bataille des 7 jours, ni de l'armistice qui avait permis de sauvegarder la liberté de l'université, alors même que le palais impérial retentissait du bruit des bottes de Gilmer et de ses soldats durant leur brève mais implacable domination. Alors qu'ils s'apprêtaient à pénétrer pour la première fois dans ce sanctuaire inviolé, les visiteurs de la Fondation se bornèrent à constater que sur une planète en plein bouleversement, qui tentait d'oublier un passé à jamais révolu afin de mieux survivre au présent et à ses innombrables difficultés, ce musée hors du temps constituait de fait une sorte de monument intellectuel particulièrement réussi à la grandeur de jadis. Dans une certaine mesure, ils arrivaient là en intrus, troublés par leur seule présence la méditation perpétuelle dans laquelle semblaient plonger ces grands bâtiments abandonnés. Une intense atmosphère de travail paraissait perdurer en tout lieu, et l'université tout entière avait l'air de s'offusquer de cette interruption. La bibliothèque donnait l'impression, à tort, d'être étonnamment petite. En fait, les bâtiments de surface se poursuivaient quasi indéfiniment en sous-sol et offraient aux visiteurs la perspective monumentale d'une immense réserve de savoir désormais dévolue à la méditation et au silence. Ebling Miss s'arrêta devant les fresques qui couvraient les murs du hall d'entrée. Tout naturellement, en un tel lieu, il se contenta de murmurer.
« Je crois que nous avons déjà dépassé la salle des catalogues. J'y retourne. Je vais m'installer là-bas. »
Il avait le front moite. Ses mains tremblaient.
« Surtout qu'on ne me dérange pas. Vous me descendrez mes repas, voulez-vous, Toran ?»«
Comme vous voudrez. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider. Voulez-vous que nous venions vous assister ?»
Il faut que je sois seul.
Vous pensez que vous trouverez ce que vous voulez?
Je sais que je trouverai,
répondit doucement Ebling Miss avec une absolue certitude. Pour la première fois sans doute depuis un an qu'ils étaient mariés, Toran et Beita eurent l'impression de s'installer dans des conditions à peu près normales. Leur installation n'était toutefois pas des plus orthodoxes, comme on peut s'en douter. Ils vivaient au milieu de toute cette grandeur avec une étonnante simplicité. Leur ravitaillement provenait essentiellement de la ferme de Lysenter, lequel était payé en retour en petits appareils atomiques comme on peut en trouver à bord de n'importe quel vaisseau marchand. Magnifico apprit tout seul à utiliser les projecteurs de la salle de lecture de la bibliothèque et dès lors il passa le plus clair de son temps à visionner des romans d'aventure et des histoires d'amour, au point d'en oublier presque autant les repas et le sommeil qu'Ebling Miss. Ebling, lui, demeurait constamment plongé dans ses recherches. Il avait insisté pour qu'on lui accrochât un hamac dans la bibliothèque de psychologie. Il avait le visage pâle et amaigri. Il avait perdu sa vigueur de langage et oublié ses jurons favoris. Par moments, il semblait avoir du mal à reconnaître Toran et Beita. Il était davantage lui-même avec Magnifico, qui lui apportait ses repas et restait souvent assis à l'observer pendant des heures, avec une étrange fascination, tandis que le psychologue vieillissant transcrivait d'interminables équations, procédait à des vérifications à partir de microfilms, se démenait sans fin, en un effort désespéré, vers un but qu'il était seul à percevoir. Toran surgit dans la pièce pleine d'ombre et dit sèchement,
« Beita !»
Beita sursauta d'un air coupable.
« Oui ? Tu as besoin de moi, Thor ?»«
Bien sûr que j'ai besoin de toi par l'espace. Qu'est-ce que tu fais à rester assise là, comme ça? Tu fais n'importe quoi depuis que nous sommes sur Trantor. Qu'est-ce que tu as?
Oh, tais-toi donc, dit-elle d'un ton las.
Oh, tais-toi donc, répéta-t-il en l'imitant visiblement irrité.
Puis, avec une douceur inattendue, il s'empressa d'ajouter.
Tu ne veux pas me dire ce qui ne va pas, Bey? Il y a quelque chose qui te tracasse?
Mais non, rien, Thor. Si tu continues à me harceler comme ça, tu vas finir par me rendre cinglé. Je réfléchis.
Tu réfléchis à quoi?
À rien. Enfin, au mulet, à Oasis, à la fondation, à tout ça. Je pense à Ebling Miss.
Et je me demande s'il arrivera finalement à trouver quelque chose sur la seconde fondation. Et si cela nous servira à quelque chose, si jamais il y arrive. Je pense à un million d'autres choses.
Voilà, tu es content? Demanda-t-elle visiblement agitée.
Si c'est juste pour le plaisir de faire la tête, tu ne voudrais pas essayer de t'arrêter?
Ce n'est pas agréable, et ça n'arrange rien.
Beïta se leva et tenta d'esquisser un semblant de sourire.
Bon, voilà, ça y est, je suis contente, tu vois, je souris. Youpi, la vie est belle.
On entendit soudain Magnifico, au comble de l'agitation, s'exclamer depuis la pièce voisine.
Jante dame!
Qu'est-ce qu'il y a? Viens donc!
La voix de Beïta s'étrangla brusquement lorsque, dans l'encadrement de la porte, se profila soudain la silhouette imposante d'un individu au visage taillé à la serpe.
« Preacher !» s'écria Thoran.
« Capitaine !» fit Beïta. « Comment nous avez-vous trouvé ?»
Anne Preacher entra. Sans trahir la moindre émotion, il s'adressa à eux d'un ton égal. Sa voix claire ne trembla pas une seule fois lorsqu'il déclara « Vous pouvez m'appeler colonel à présent. J'ai eu une promotion, grâce au mulet. »
Vous êtes passé dans les rangs du...
Mulet ? Balbutia Thoran dans un murmure qui s'affaiblit jusqu'à devenir pratiquement inaudible. La scène avait quelque chose de théâtral et les trois personnages qui la composaient semblaient tout droit sortis d'une tragédie classique. Magnifico, qui contemplait le nouvel arrivant d'un air éperdu, vint se blottir derrière Thoran. Personne ne fit attention à lui.
Beïta se tordit les mains, comme pour les empêcher de trembler, et dit
« Vous venez nous arrêter?
Vous êtes vraiment passé dans leur camp ?»«
Je ne suis pas venu vous arrêter, » répondit aussitôt le colonel. « Mes instructions ne font pas mention de vous. » En ce qui vous concerne, je suis libre d'agir à ma guise. Et si vous le voulez bien, je choisis de renouer notre vieille amitié.
Comment nous avez-vous trouvé?
Demanda Thoran, dont les traits convulsés indiquaient assez qu'il tentait tant bien que mal de masquer sa fureur.
Vous étiez à bord du vaisseau philien alors? Vous nous avez suivis?
Une expression embarrassée sembla passer très fugitivement sur le visage de Preacher.
J'étais en effet à bord du vaisseau philien.
Je vous ai d'abord trouvé, disons, par hasard.
Un hasard mathématiquement impossible.
Pas impossible. Disons plutôt très improbable.
Aussi devrez-vous vous contenter de ma version des faits.
Quoi qu'il en soit, vous avez avoué aux Philiens, naturellement il n'y a jamais eu de planète du nom de Philia, que vous vous dirigiez vers le secteur de Trantor, et comme le mulet a déjà ses contacts sur Néo Trantor, il a été facile de vous faire retenir là-bas. Malheureusement, vous avez réussi à vous enfuir avant mon arrivée.
Mais je vous ai manqué de peu, en fait, et j'ai eu le temps de faire donner l'ordre aux fermiers de Trantor de signaler votre arrivée. C'est ce qu'ils ont fait. Et me voici.
Vous permettez que je m'assoie?
Croyez-moi, je viens en toute amitié.
Il s'assit. Thoran baissa la tête, perdu dans de vaines réflexions. Comme anesthésié, Beïta se mit à préparer le thé.
« Alors qu'attendez-vous, colonel ?»
demanda brusquement Thoran en relevant la tête.
« Que vaut donc votre amitié ? Si vous ne venez pas nous arrêter, qu'est-ce que vous venez faire ici, alors ? Vous venez nous surveiller pour nous protéger, c'est ça ? Mais allez-y donc ! Appelez vos hommes, donnez vos ordres !»«
Non, Thoran. » dit Preacher en secouant patiemment la tête. « Je viens de mon propre chef vous parler. Vous persuader de l'inutilité de ce que vous faites. Si j'échoue, je partirai. Voilà tout. »«
Ah oui ? Eh bien, dans ce cas, allez-y, sortez-nous là, votre propagande, et fichez le camp. Je ne veux pas de thé, Beïta. »
Preacher accepta la tasse que Beïta lui tendait en la remerciant avec une solennité inhabituelle en pareille circonstance. Tout en buvant son thé à petites gorgées, il dévisagea franchement Thoran. Puis il dit
« Le mulet est bien un mutant. Et la nature même de sa mutation empêche qu'on puisse le vaincre.
Pourquoi ?
De quelle mutation s'agit-il ? »
demanda Thoran d'un ton sarcastique.
« Je pense que vous allez nous le dire maintenant, non ? » ?»«
En effet. Le fait que vous le sachiez ne lui nuira pas. Voyez-vous, il est capable de modifier l'équilibre émotionnel des êtres humains. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une arme imparable.
L'équilibre émotionnel ? S'étonna Beïta en fronçant les sourcils. Vous ne voulez pas m'expliquer, je ne comprends pas très bien.
Ce que je veux dire, c'est qu'il est facile pour lui, par exemple, d'instiller dans l'esprit d'un général compétent un sentiment de totale loyauté envers le mulet et d'absolue certitude dans la victoire du mulet. Tous ces généraux sont contrôlés sur le plan émotionnel. Il leur est impossible de le trahir ou même de faiblir tant qu'il se trouve à son service. Et le contrôle est permanent. Ses ennemis les plus acharnés deviennent ses plus fidèles lieutenants. Ainsi, le seigneur de Kalgan capitule avec sa planète et devient son vice-roi pour la Fondation. « Et ainsi, ajouta Beïta d'un ton amer, vous trahissez votre cause et devenez l'envoyé du mulet sur Trentor. Je vois. Je n'ai pas fini. Le don du mulet opère dans l'autre sens, et de façon plus efficace encore. Le désespoir est aussi une émotion. Au moment crucial, les hommes clés de la Fondation, les hommes clés d'Oasis, ont baissé les bras. Leurs planètes sont tombées sans dommages graves, faute de réels combats.
« Vous voulez dire, demanda Beïta crispé, que les sentiments que j'ai éprouvés dans la crypte de Seldon étaient dus au contrôle émotionnel que le mulet exerçait sur moi ?»«
Et sur moi aussi. Sur tout le monde, en fait. » Comment cela s'est-il passé sur Oasis vers la fin ?
Beïta détourna la tête.
Il en va des planètes comme des individus, reprit Preacher, qui avait visiblement à cœur de se faire bien comprendre. Pouvez-vous combattre une force susceptible de vous faire capituler de votre plein gré quand elle le désire ? Susceptible de faire de vous un serviteur fidèle quand elle en a envie ?
Comment savoir si c'est la vérité ?
Demanda lentement Thoran. Pouvez-vous expliquer autrement la chute de la Fondation et d'Oasis ? Pouvez-vous expliquer autrement ma conversion ?
Réfléchissez, bon sang. Qu'est-ce que vous ou moi ou toute la galaxie avons fait pendant tout ce temps contre le mulet ? Citez-moi la moindre petite chose que nous ayons tentée.
Par la galaxie, ce n'est pourtant pas difficile, fit Thoran piqué au vif.
« Votre super mutant avait des contacts sur Néo-Trentor qui devaient nous capturer, hein ? Eh bien, ces contacts sont morts. Ou pire encore, nous avons tué le prince de la couronne et son complice n'est plus qu'un légume. Le mulet n'a donc pas réussi à nous arrêter. Nous avons bel et bien déjoué ses plans. »
« Mais non. »
« Pas du tout. »
« Ce n'étaient pas nos hommes, cela. » Le prince de la couronne était un pauvre type imbibé d'alcool. L'autre, comme Asson, n'était qu'un imbécile doublé d'un idiot.
Il avait de l'autorité sur son monde, mais cela ne l'empêchait pas d'être pervers, foncièrement mauvais et particulièrement incompétent. Nous n'avions pas grand-chose à voir avec eux, en fait. Ils nous servaient de leur d'une certaine façon. Ils ont pourtant bien tenté de nous arrêter. En tout cas, ils ont essayé. Là encore, je dois vous contredire. Comason possédait un esclave qui était attaché à son service personnel, un dénommé Inchne. En fait, c'est de lui que vient l'idée de vous faire arrêter. Il n'est plus très jeune, mais pour l'instant, il nous est encore utile. Lui, voyez-vous, vous ne l'auriez pas tué. Brusquement, Beïta se retourna vers lui. Elle n'avait même pas touché à son thé. Mais d'après ce que vous venez de dire vous-même, vos propres émotions ont été modifiées. Vous avez foi dans le mulet, une foi contre nature malsaine, que valent vos opinions? Vous avez perdu toute faculté de réflexion objective? Vous faites erreur, fit le colonel en secouant lentement la tête. Seules mes émotions ont été modifiées. Ma raison n'a pas changé. On peut certes l'influencer, l'inciter à agir dans une certaine direction par le conditionnement de mes émotions, mais personne ne la force à prendre ce chemin. Et puis, il y a certaines choses que je vois plus clairement maintenant que je suis libéré de mes émotions précédentes. Par exemple, je sais désormais que le programme du mulet est très intelligemment conçu et qu'il mérite qu'on s'y intéresse. Depuis que j'ai été converti, j'ai suivi sa carrière depuis ses débuts il y a 7 ans. Grâce à ses facultés mentales de mutant, il a commencé par vaincre un condottiere et sa bande de coupe-jarret. Puis, à l'aide de ses nouveaux alliés et toujours en s'aidant de ses pouvoirs, il a étendu son emprise jusqu'au moment où il a pu s'attaquer au seigneur de Kalgan. Ensuite, tout s'est enchaîné logiquement. Après la prise de Kalgan, il a disposé d'une flotte de première classe qui lui a permis, toujours en s'aidant de ses pouvoirs, de s'attaquer à la Fondation. La Fondation est la clé de tout. C'est la plus grande concentration industrielle de toute la galaxie. Et maintenant que les techniques atomiques de la Fondation sont entre ses mains, il est le véritable maître de la galaxie. Grâce à ces techniques, et toujours en s'aidant de ses pouvoirs, il peut forcer le vieil empire ou ce qu'il en reste à reconnaître son autorité. Une fois que le vieil empereur qui n'a plus sa raison aura quitté ce monde, ce qui ne saurait tarder au vu de son état, il les forcera à le couronner empereur. Il règnera alors bel et bien, dans les faits comme dans les textes. Avec un tel statut, sans parler de ses pouvoirs, pourrait-il se trouver une seule planète dans toute la galaxie capable de lui tenir tête? Au cours des 7 années qui viennent de s'écouler, il a fondé un nouvel empire. Autrement dit, il a réussi à faire en 7 ans ce que Seldon, avec toute sa science de la psychohistoire, n'avait pas réussi à faire en près de 700 ans. La galaxie va enfin connaître l'ordre et la paix. Inutile d'essayer de vous mettre en travers de sa route. Autant essayer d'arrêter une planète à main nue. Un long silence suivit le discours de Preacher. Son thé avait refroidi. Il vida le fond de sa tasse, l'emplit de nouveau et la but lentement. Thoran se mordait nerveusement les ongles. Le visage de Beïta était pâle et son expression froide et distante. Puis elle dit d'une voix frêle « Nous ne sommes pas convaincus. Si le mulet désire que nous soyons ainsi, qu'il vienne sur place nous conditionner lui-même. Vous l'avez combattu jusqu'au dernier instant de votre conversion, j'imagine, n'est-ce pas ?»«
En effet, »
dit gravement le colonel Preacher. « Alors, octroyez-nous le même privilège. »
Le colonel Preacher se leva. « En ce cas, je pars, » dit-il d'un ton pincé. « Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, ma mission ne vous concerne pas. Je ne crois pas qu'il me sera nécessaire de signaler votre présence ici. Ce n'est pas une trop grande bonté de ma part,
si le mulet désire arrêter votre action, il a sans nul doute d'autres hommes chargés de cette mission, et vous serez arrêté en temps utile. Mais en ce qui me concerne, je ne ferai pas plus que ce qu'on exige de moi.
Merci, murmura Beïta.
Et Magnifico, où est-il?
Viens, Magnifico.
Je ne te ferai aucun mal.
Qu'allez-vous faire de lui? Demanda Beïta qui s'agita soudain, mal à l'aise.
Rien.
Mes instructions ne parlent pas de lui non plus. J'ai entendu dire qu'il était recherché, mais le mulet saura bien le retrouver quand il jugera le moment venu.
Je ne dirai rien. Serrons-nous la main, voulez-vous?
Beïta secoua la tête. Thoran exprima son impuissance en le toisant avec mépris. Le colonel baissa imperceptiblement les épaules. Il se dirigea vers la porte, se retourna sur le seuil et dit un dernier détail.
« Ne croyez pas que j'ignore d'où provient votre entêtement. On sait que vous recherchez la seconde fondation. Le mulet en temps utile prendra les mesures nécessaires. Rien ne peut plus vous aider désormais. Mais nous nous sommes connus en d'autres temps, en d'autres circonstances. Peut-être ma conscience m'a-t-elle poussé à agir ainsi. En tout cas, j'aurais essayé de vous aider de mon mieux avant qu'il ne soit trop tard. Adieu. »
Il salua sèchement et disparut. Beïta se tourna vers Thoran qui demeurait silencieux et murmura « Ils sont même au courant de l'existence de la seconde fondation. » Pendant ce temps, une faible lueur luisait encore dans les profondeurs enténébrées de la bibliothèque. Accroupi au milieu des livres, encore dans l'ignorance des derniers événements, Ebling Miss se mit à marmonner pour lui-même. Il exultait.